La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Nous sommes donc ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet également, sur www.awr.org, ou aussi grâce à votre téléphone au 01 80 14 44 77, si vous nous appelez depuis la France, ou bien au 00 33 1 80 14 44 77 si c'est en dehors de France, ou encore si vous nous écoutez depuis les États-Unis, c'est le 1 712 432 9978. Et il est important de signaler que ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Pour notre programme de ce dimanche, eh bien, nous vous proposons l'étude de la Bible de la semaine.
Leçon 10, du 27 novembre au 3 décembre. Souviens-toi, n'oublie pas. Samedi après-midi. Étude de la semaine. Genèse 9, versets 8 à 17. Deutéronome 4, versets 32 à 39. Apocalypse 14, verset 12. Deutéronome 4, versets 9 et 23. Deutéronome 6, verset 7. Deutéronome 8, versets 7 à 18, Éphésiens 2, versets 8 à 13. Versets à mémoriser. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as irrité le Seigneur, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été rebelles envers le Seigneur. Deutéronome 9, verset 7. Deux termes apparaissent tout au long de la Bible. Se souvenir et oublier. Tous deux renvoient à quelque chose d'humain, quelque chose qui se produit dans notre tête. Tous deux sont des verbes et ils sont opposés. Se souvenir, c'est ne pas oublier. Et oublier, c'est ne pas se souvenir. Dieu dit souvent à son peuple de se souvenir de toutes les choses qu'il a faites pour eux, de se souvenir de sa grâce et de sa bonté envers eux. La majeure partie de l'Ancien Testament est constituée des prophètes qui disent au peuple hébreu, de ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour eux. Mais également, surtout, ils ne devaient pas oublier ce qu'était leur appel et quel genre de peuple ils devaient être en réponse à cet appel. Je me rappellerai des exploits de l'Éternel, me souvenant de tes merveilles d'autrefois. Psaume 77, verset 11. Est-ce différent pour nous aujourd'hui au niveau collectif et surtout sur le plan personnel? Comme il est facile d'oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Cette semaine, nous étudierons cet important principe tel qu'il est exprimé dans le Deutéronome. Celui qui veut que l'on se souvienne et que l'on n'oublie pas l'action de Dieu dans nos vies. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 4 décembre. Dimanche 28 novembre. Souviens-toi de l'arc-en-ciel. C'est dans Genèse 9 qu'apparaît pour la première fois que le mot « se souvenir » dans la Bible, quand, après le déluge mondial, le Seigneur dit à Noé qu'il mettrait l'arc dans le ciel comme un signe de son alliance avec toute la terre, pour dire qu'il ne détruirait plus jamais toute la terre par un déluge. Lisez Genèse 9, versets 8 à 17. De quelle manière le verbe « se souvenir » est-il employé ici? Et que peut-on en conclure sur la façon dont nous devrions nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous? Bien entendu, Dieu n'a pas besoin de l'arc-en-ciel pour se souvenir de sa promesse et de son alliance. Il est simplement exprimé de manière à se faire comprendre des humains. L'arc-en-ciel sert plutôt à leur rappeler l'alliance de Dieu et sa promesse de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. En d'autres termes, l'arc-en-ciel servait à aider les gens à se souvenir de cette alliance spéciale que Dieu avait faite. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît, le peuple de Dieu se souvient non seulement du jugement de Dieu sur le monde à cause de ses péchés, mais également de son amour pour le monde. Nous voyons ainsi l'importance de l'idée du souvenir, ce souvenir des promesses de Dieu, ce souvenir des avertissements de Dieu, ce souvenir de l'action de Dieu dans le monde. L'arc-en-ciel revêt une importance encore plus grande aujourd'hui, alors que sur la base de la continuité des lois de la nature, de nombreux scientifiques rejettent l'idée d'un déluge mondial. Chose fascinante, Ellen G. White a écrit qu'avant le déluge, beaucoup de gens avaient cette même conception que la continuité des lois de la nature écartait la possibilité qu'un déluge mondial puisse se produire. Elle a écrit que les sages avançaient que la nature est supérieure au Dieu de la nature et que Dieu lui-même ne peut modifier ses inflexibles lois. Patriarches et prophètes, page 72. Alors, avant le déluge, les gens prétendaient, en s'appuyant sur les lois de la nature, qu'il n'arriverait pas. Pourtant, Dieu, dans sa parole, nous a parlé du déluge et a donné un signe au monde. Non seulement un signe du déluge, mais un signe de sa promesse de ne plus jamais en provoquer un. Ainsi, quand nous nous souvenons de ce que signifie l'arc-en-ciel, nous pouvons avoir l'assurance écrite dans le ciel avec ses magnifiques couleurs que la parole de Dieu est certaine. Et si nous pouvons avoir confiance en sa parole pour cette promesse, pourquoi ne pas faire confiance en sa parole également pour tout ce qu'il nous dit? La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, pensez aux promesses de Dieu. Comment apprendre à faire confiance à toutes ses promesses? Lundi 29 novembre. Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé. Dans Deutéronome 4, nous avons lu les merveilleuses exhortations que le Seigneur a données à son peuple par l'intermédiaire de Moïse au sujet de leur grand privilège en tant que peuple élu de Dieu. Il les avait rachetés de l'Égypte au moyen d'épreuves, de signes, de prodiges et de combats, d'une main forte et d'un bras étendu, par des interventions grandes et redoutables. Tout ce que le Seigneur Yahweh, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte, sous tes yeux. Deutéronome 4, verset 34. Autrement dit, non seulement Dieu avait fait quelque chose de grand pour vous, mais la manière dont il l'avait fait devait vous aider à vous souvenir, à ne pas oublier quelle grande chose il a faite pour vous. Lisez Deutéronome 4, verset 32 à 39. De quoi devait-il se souvenir selon l'invitation du Seigneur? Et pourquoi était-il si important qu'il se souvienne de ces choses? Moïse renvoie le peuple à l'histoire, jusqu'à la création elle-même, et leur demande sous forme de questions rhétoriques s'il n'y a jamais eu un précédent dans l'histoire, si l'on n'a jamais fait quelque chose de semblable à ce qui a été fait pour eux. En fait, il leur dit de demander, c'est-à-dire d'étudier par eux-mêmes et de voir si ce qu'ils ont vécu s'est déjà vu auparavant. En leur posant quelques questions, Moïse essayait de leur faire prendre conscience de ce que le Seigneur avait fait pour eux et ainsi, en définitive, de combien ils devaient être reconnaissants envers lui pour ses hauts faits dans leur vie. Dans ses hauts faits, la délivrance de l'Égypte était centrale. Ensuite, et peut-être plus étonnant encore à certains égards, il y eut le fait que Dieu leur ait parlé au Sinaï, où ils ont pu entendre ses paroles du milieu du feu. Lisez Deutéronome 4, verset 40. Quelle conclusion Moïse voulait-il que le peuple tire de ses paroles sur ce que Dieu avait fait pour eux? Le Seigneur n'avait pas fait toutes ces choses sans raison. Il avait racheté son peuple, gardé sa part de l'alliance qu'il avait établie avec eux. Ils étaient libérés de l'Égypte sur le point d'entrer en terre promise. Dieu avait fait sa part. ils étaient désormais appelés à faire la leur, c'est-à-dire obéir tout simplement. En quoi ce modèle présente-t-il le plan du salut tel qu'il est exprimé dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous et comment sommes-nous censés réagir à ce qu'il a fait pour nous? Voir Apocalypse 14, verset 12. Mardi 30 novembre. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies. Lisez Deutéronome 4, verset 9 et 23. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit de faire ici? Et pourquoi cette mise en garde est-elle si importante pour la nation? Deux verbes dominent l'ouverture de ces deux versets. Prends garde et oubliez. Voici ce que leur dit le Seigneur. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies. C'est-à-dire, n'oublie surtout pas ce que le Seigneur a fait pour toi, ni l'alliance qu'il a conclue avec toi. Le verbe « prendre garde », qui est également employé sous une forme différente dans Deutéronome 4, verset 9, traduit par « garde-toi », revient dans tout l'Ancien Testament et il signifie « garder ». Veiller ou préserver. Chose intéressante, il apparaît pour la première fois avant le péché, quand le Seigneur dit à Adam de garder le jardin qu'il lui avait donné. Genèse 2, verset 15. Maintenant, pourtant, le Seigneur dit au peuple, à chaque personne individuellement, le verbe est au singulier de se garder de peur d'oublier. Ce n'est pas tellement oublié au sens d'une perte de mémoire, bien que cela arriverait avec le temps et avec la succession des générations, mais davantage dans le sens d'être laxiste dans leur obligation d'alliance. C'est-à-dire qu'ils devaient faire attention à qui ils étaient et à ce que cela signifiait pour eux de manière de vivre devant Dieu, devant les autres Hébreux, devant les étrangers parmi eux et devant les nations autour d'eux. Relisez Deutéronome 4, verset 9. Voir également Deutéronome 6, verset 7 et Deutéronome 11, verset 19. Mais concentrez-vous sur la dernière partie, celle qui parle de les enseigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Quel est le rapport avec le fait de les aider à ne pas oublier? Juste après leur avoir dit de ne pas oublier, de ne pas laisser ces choses s'éloigner de ton cœur, Moïse leur dit de les enseigner à la génération suivante et à la génération d'après. Cela n'a rien d'une coïncidence. Non seulement leurs enfants avaient besoin d'entendre ces choses, mais peut-être plus important encore, en disant et redisant les récits de ce que Dieu avait fait pour eux, le peuple n'oublierait jamais ces choses. Quelle meilleure manière de préserver la connaissance de ce que le Seigneur a fait pour son peuple élu. En quoi le fait de raconter votre expérience à d'autres personnes est-il bénéfique, non seulement aux autres, mais à vous-même aussi? En quoi le fait de raconter la direction de Dieu vous aide-t-il à ne pas oublier comment il vous a conduit? Mercredi 1er décembre, tu mangeras et tu seras rassasié. Un ancien dirigeant d'église qui avait travaillé à la Conférence générale des Adventistes du septième jour pendant 34 ans raconte comment, des années auparavant, lui et sa femme, ayant atterri à un aéroport, avaient perdu un bagage. Sur place, près du tapis à bagages et en public, nous nous sommes mis à genoux et nous avons prié en demandant au Seigneur de nous rendre notre bagage perdu. Il raconte ensuite que bien des années plus tard, la même chose arriva, une fois à l'aéroport, une valise manquait à l'appel. Il ne dit pas ce qui arriva ensuite. « Ne t'inquiète pas, dit-il à sa femme, l'assurance le prendra en charge. » Avec cette histoire en tête, lisez Deutéronome 8, versets 7 à 18. Quel avertissement le Seigneur donne-t-il à son peuple ici? Et qu'est-ce que cela devait vouloir dire pour nous aujourd'hui? Voyez ce que leur fidélité au Seigneur leur apporterait. Non seulement il posséderait un pays merveilleux et riche, un pays où tu mangeras sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, mais il serait abondamment béni dans ce pays des troupeaux, de l'or, de l'argent et de magnifiques demeures. Autrement dit, il recevrait tout le confort matériel que la vie offre. Mais ensuite, ils affronteraient le danger qui accompagne toujours la richesse et la prospérité physique, celui d'oublier que c'était le Seigneur qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. Deutéronome 8, verset 18. Peut-être pas au départ, mais à mesure que les années passeraient et qu'ils disposeraient de tout le confort matériel, ils oublieraient leur passé. Ils oublieraient la manière dont le Seigneur les avait conduits dans tout ce grand et redoutable désert. Et en effet, ils penseraient que c'est leur propre intelligence et leur propre talent qui leur avaient permis d'avoir autant de succès. C'est précisément contre cela que le Seigneur les mettait en garde. Et malheureusement, surtout quand on lit les prophètes qui vinrent par la suite, c'est exactement ce qui leur arriva. Ainsi, dans cette prospérité qui est la leur, Moïse leur dit de se souvenir que c'est le Seigneur seul qui a fait cela pour eux et de ne pas se laisser abuser par les bénédictions matérielles qu'il leur avait accordées. Des siècles plus tard, Jésus lui-même mettrait en garde dans les paraboles du semeur contre l'attrait trompeur des richesses. Marc 4, verset 19. Quelle que soit la quantité d'argent et de biens matériels que nous avons ici-bas, nous sommes tous des êtres de chair et d'os qui finiront dans une fosse. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur les dangers qui accompagnent les richesses? En ceci, que les richesses peuvent nous faire oublier notre besoin du seul être qui peut nous délivrer de cette fosse. Jeudi 2 décembre. Souviens-toi que tu as été esclave. Lisez Deutéronome 5, verset 15, Deutéronome 6, verset 12, Deutéronome 15, verset 15, Deutéronome 16, verset 3 et 12, et Deutéronome 24, verset 18 et 22. Qu'est-ce que le Seigneur voulait qu'il n'oublie pas en particulier et pourquoi? Comme nous l'avons vu dans tout l'Ancien Testament, le Seigneur ramenait constamment les pensées du peuple à l'Exode, leur délivrance miraculeuse de l'Égypte qu'il avait accomplie. Jusqu'à ce jour, des milliers d'années plus tard, les Juifs pratiquants observent la fête de la Pâque, mémorial de ce que le Seigneur a fait pour eux. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Lorsque vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. » Exode 12, versets 25 à 27. Pour l'Église aujourd'hui, la Pâque est un symbole de la délivrance qui nous a été offerte en Christ. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. 1 Corinthiens 5, verset 7. Lisez Éphésiens 2, verset 8 à 13. De quoi ces croyants d'origine païenne sont-ils appelés à se souvenir? En quoi s'agit-il d'un parallèle à ce que les Hébreux, dans le Deutéronome, étaient appelés à se souvenir? Paul voulait qu'ils se souviennent de ce que Dieu avait fait pour eux en Christ, d'où il les avait sauvés et de ce qu'ils avaient désormais à cause de la grâce de Dieu envers eux-mêmes. Comme avec les enfants d'Israël, il n'y avait rien en eux qui pouvait les recommander à Dieu. Au contraire, c'était uniquement la grâce de Dieu qui leur était accordée, bien qu'ils fussent étrangers aux alliances de la promesse qui leur donnait cette identité en Jésus-Christ. Qu'il s'agisse des Juifs au désert, des chrétiens d'Éphèse ou des adventistes du septième jour dans le monde, comme il est crucial de toujours se souvenir et de ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il n'est donc pas étonnant que nous ayons ces paroles. Il nous serait avantageux de passer chaque jour une heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes et surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 67. Vendredi 3 décembre. Ainsi, lorsque nous voyons dans les nuages ce magnifique mémorial de son alliance avec les hommes, nous pouvons admirer la condescendance et les compassions de Dieu envers ses faibles créatures. Quand il nous dit qu'en voyant l'arc-en-ciel, il se souvient de son alliance, cela n'implique pas qu'il puisse jamais oublier ses promesses. Il emprunte simplement notre langage pour mieux se faire comprendre. Son dessein était de donner aux parents des générations futures l'occasion d'instruire leurs enfants sur le sens de l'arc-en-ciel, de leur rappeler l'histoire du déluge et de rallumer leur foi en l'amour de Dieu envers les hommes. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 83. Depuis la fondation du christianisme, aucune église n'a profité d'autant de richesses et d'aisance que l'église dans certains pays du monde aujourd'hui. La question est, à quel prix? Une telle aisance influence forcément notre spiritualité, et pas forcément dans le bon sens. Depuis quand les richesses et l'abondance matérielle nourrissent-elles les vertus chrétiennes d'abnégation et de sacrifice? Dans la plupart des cas, c'est le contraire qui se produit. Plus les gens ont de choses, et plus ils comptent sur eux-mêmes, et moins ils ont tendance à dépendre de Dieu. La richesse et la prospérité, aussi agréables soient-elles, s'accompagnent de nombreux pièges spirituels périlleux. À méditer. Discuter de la question de la richesse, qui peut d'ailleurs être très relative, c'est-à-dire qu'une personne considérée comme riche dans son pays peut être considérée comme ultra riche dans un autre, et la manière dont elle affecte notre spiritualité. De quelle manière ceux qui ont de l'argent peuvent-ils se prémunir des dangers spirituels que la richesse peut entraîner? En classe, échanger sur les dernières scènes de la vie de Christ. Que nous indique-t-elle sur l'amour de Dieu pour nous? Pourquoi devons-nous jamais oublier la réalité de cet amour? Quel autre élément, d'après vous, révèle la bonté de Dieu? Et pourquoi devrions-nous toujours avoir à l'esprit cette réalité? Certains scientifiques disent qu'il n'y a pas eu de déluge mondial, malgré ce que dit la Bible, et l'arc-en-ciel. Et certains disent qu'il n'y a non plus eu de création en six jours, malgré ce que dit la Bible, et le sabbat du septième jour pour le commémorer. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la puissance de l'impact négatif que la culture peut avoir sur la foi?
Connais-tu l'IEBC?
Non, c'est quoi?
C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
Moi, j'ai suivi le cours Au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
Is Adventist World Radio, the voice of hope.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis, eh bien vous faites le 1 712 432 9 978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193 Damary-les-Lys, Cedex. Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était votre émission La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, en temps universel, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et enfin à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.